Bienvenue sur InfraEDEV. Je suis Mamoudou Bokoum, votre hôte dans ce podcast dédié aux enjeux et opportunités de développement des infrastructures en Afrique. Aujourd'hui, nous continuons notre discussion sur les défis et opportunités liés à la mobilité urbaine dans le continent. Ceci est la dernière partie de notre entretien avec Amaury de Feligonde. Dans ce 25e épisode, nous apportons des réponses aux questions clés suivantes. Quelles sont les actions qui pourraient aider à améliorer la planification des politiques de mobilité urbaine en Afrique? Comment concrètement pourrait-on venir à bout du défi majeur de mobilisation de financement pour la mobilité urbaine? Comment la technologie peut-elle venir au secours des enjeux de la mobilité urbaine dans le continent? Quelles solutions pourraient aider à prendre en charge les enjeux climatiques, les enjeux de durabilité et de résilience? Quelles sont les principales initiatives que nous remarquons actuellement dans le continent en termes de mobilité urbaine? Quels exemples de bonnes pratiques en matière de mobilité urbaine dans les villes africaines peut-on citer? À quoi pourrait ressembler la mobilité urbaine en Afrique à l'horizon 2030? Pour répondre à ces questions, nous sommes toujours accompagnés de M. Amaury de Feligonde. Amaury est un expert financier, cofondateur et directeur général du cabinet de conseil OCAN. Ancien de McKinsey et de l'AFD, Amaury accompagne aujourd'hui à travers OCAN des clients publics et privés dans la structuration et le financement de leurs projets africains, que ce soit en infrastructure, en agriculture ou dans les mines. Actif plus de 20 ans en Afrique, il a accompagné le développement de plus d'une vingtaine d'entreprises internationales et africaines sur le continent. Merci beaucoup Amaury. Dans la première partie de notre entretien, nous avons analysé les défis et opportunités et abordé des solutions à haut niveau. Dans cette seconde partie, j'aimerais aller un peu plus loin dans les recommandations. Sur la planification concrètement, quelles sont les actions que vous recommandez aujourd'hui pour améliorer la planification des politiques de mobilité urbaine en Afrique?
Ce qui est important dans un premier temps, tout simplement, et j'ai l'impression d'enfoncer un peu une porte ouverte, mais c'est d'avoir un plan. Or, si beaucoup de villes capitales ont des plans de développement de la ville à horizon de 2-3 générations, peu nombreuses sont les villes qui ont des plans de développement du transport. Et sans plan de développement, c'est difficile d'avoir des transports de masse qui se développent, qui sont financés et qui se parlent les unes aux autres. Parce qu'il est très important d'avoir, encore une fois, cette approche écosystémique dans laquelle un BRT, un TER, des réseaux de bus, des réseaux piétons, demain des réseaux de véhicules électriques puissent correspondre les uns aux autres. Et donc il est important vraiment de planifier, d'avoir un plan et que les différents moyens de transport puissent se parler.
Une approche quelque part effectivement intégrée pour essayer d'avoir une solution globale dans la planification. Je vais en revenir au défi peut-être de mobilisation de financement. Certains sont en train de penser aujourd'hui que quelque part les PPP sont peut-être une panacée. D'autres clairement croient que rien ne peut se faire sans vraiment la partie publique. Aujourd'hui, de par votre analyse, quels sont les modèles économiques que vous recommandez? Quels sont effectivement les défis majeurs aujourd'hui pour permettre à venir à bout des enjeux de financement?
Alors, comme je le mentionnais, en Afrique, comme ailleurs dans le monde, et de ce point de vue-là, l'Afrique ne fait pas exception, la plupart, voire la totalité, des grandes infrastructures de transport sont subventionnées par les gouvernements. Pourquoi ? Ces infrastructures de transport sont cruciales d'un point de vue économique et social, et donc il faut que les gouvernements puissent subventionner au moins la partie infrastructure. La plupart du temps aussi, les gouvernements mettent en place des subventions d'équilibre dans le cadre de l'exploitation. Moi, j'habite en banlieue parisienne. Tous les ans, l'État, les collectivités territoriales subventionnent les réseaux de RER, de trains de banlieue, de métro de la région de Paris, etc. Donc, on a une intervention de l'État qui est obligatoire, même quand ces réseaux de transport sont bien calibrés, sont bien gérés, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de projets qui se développent en PPP. Pourquoi ? Parce que l'État a cette capacité à planifier, a cette capacité à mobiliser des budgets importants pour financer les infrastructures. Mais en général, c'est le privé qui a la meilleure capacité à gérer ces réseaux au jour le jour, à apporter la technologie, à gérer la billettique, les matériels roulants, etc. Donc on recourt souvent à des montages en PPP.
Merci Amaury. C'est clair effectivement qu'il faudra trouver des solutions de financement innovantes. Une autre également solution qui est de plus en plus sollicitée pour venir un peu aider à améliorer les opérations de transport, c'est la technologie. Comment aujourd'hui vous voyez la technologie comme solution pour aider à venir à bout des enjeux de mobilité urbaine en Afrique?
Alors, c'est un point assez important, je pense, après la planification, après le financement, c'est comment effectivement on utilise la technologie pour avoir des mobilités urbaines qui soient aussi efficaces que possible. Alors, j'ai cité un certain nombre de start-up qui sont très intéressantes. Il peut y avoir Yassir, qui est originaire d'Algérie. Il peut y avoir Itch, donc une société occidentale française qui s'est installée dans un certain nombre de pays africains. On a Yango, on a M-Auto, on a Move. Enfin bref, il y a plein de nouvelles start-up qui s'installent. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau d'un concept qu'on appelle, alors en anglais, mobility as a service. C'est comment, sur un territoire, à l'échelle d'un territoire donné, on peut permettre à des passagers d'avoir accès à un service unifié, multimodal, où on peut utiliser, par exemple, le train, le TER, un BRT, un bus, etc., avec un pass unique. Donc ça, c'est vraiment des solutions technologiques qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas très compliquées, mais qui posent évidemment des problèmes de gouvernance, des problèmes entre les différents opérateurs de ces différents modes de transport. Mais en tout cas, il existe beaucoup de solutions aujourd'hui qui existent pour permettre une mobilité plus fluide en écosystème.
Et est-ce que vous savez si il y a effectivement des contraintes aujourd'hui pour favoriser l'éclosion de ces startups qui vraiment permettent de promouvoir la technologie? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés dans leur développement?
Alors, je crois que Partech, donc, qui est un grand fonds d'investissement qui investit dans la tech en Afrique, vient de lever un nouveau fonds et vient de sortir un rapport pour l'année 2022. Et jamais, autant que ces dernières années, l'Afrique n'a vu éclore un nombre aussi important de start-up. Il y a des financements qui sont extrêmement importants. Alors, les financements vont surtout sur les fintech, donc sur le monde de la finance, mais viennent aussi sur ces nouvelles sociétés qui sont dans les mobilités urbaines. Donc aujourd'hui, en tout cas, on voit qu'il y a deux jeunes Africains qui montent des start-up. Il y a vraiment ce monde des start-up qui se développe, particulièrement au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, en Égypte, mais aussi de plus en plus en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Donc tout ça est très réjouissant, on voit beaucoup de talents et on voit des financements qui sont de plus en plus disponibles pour soutenir ces start-up. Donc je pense que tout ça est assez réjouissant.
Merci beaucoup. Effectivement, je pense qu'il y a de plus en plus de financements aujourd'hui qui vraiment viennent vers l'Afrique pour favoriser, effectivement, pour accompagner le développement de ces start-up-là. Je vais en venir à un autre élément qui également est très important, c'est ces enjeux climatiques, ces enjeux de durabilité et de résilience qui sont vraiment au cœur des débats aujourd'hui quand on parle des modèles économiques de développement qui va au-delà du transport, mais dans le cadre de la mobilité en particulier. Comment aujourd'hui vous pensez qu'on peut mieux prendre en charge ces enjeux climatiques et de durabilité?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la matière et je pense que tous ces moyens de transport de masse qui sont mis en œuvre, comme des métros, le Rautren, le métro de Lagos, les tramways de Casablanca, le métro léger d'Addis, le futur BRT ou bus en site propre électrique de Dakar, tout ça sont des systèmes qui vont permettre de faciliter les déplacements de façon assez décarbonée, notamment si un certain nombre de ces moyens de transport qui fonctionnent à l'électricité fonctionnent avec une électricité qui elle-même est décarbonée. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un bond en avant qui est en train d'être fait dans beaucoup de villes africaines. On est au début mais c'est vraiment l'avenir, en fait.
Merci beaucoup. Et vous avez tout à l'heure parlé de pas mal de tendances, vraiment de projets qui essaient effectivement d'améliorer la mobilité dans les villes africaines, notamment la liberté de Dakar, le métro de Caire, entre autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelques exemples de bonnes pratiques que vous aimeriez partager en matière de mobilité urbaine et que peut-être d'autres villes qui n'y sont pas encore pourraient effectivement en prendre la graine pour essayer de développer aussi la mobilité dans leur ville?
Alors, en fait, peut-être pour répondre de façon un peu indirecte à votre question, j'ai déjà cité donc beaucoup de capitales africaines qui se sont dotées de moyens de transport de masse. Ce qui manque un peu aujourd'hui, probablement, c'est ces moyens de transport de masse qui se mettraient en place, alors plus dans les capitales de ces pays, qui sont souvent un peu des vitrines, puisque tout le monde passe dans ces villes capitales, mais il faudrait que ces mêmes moyens de transport puissent se mettre en place dans des villes secondaires, qui, comme je l'ai dit en introduction, sont parfois des villes où il y a des millions, voire des dizaines de millions de personnes, et aujourd'hui, qui sont des villes sur lesquelles il y a peu ou pas de moyens de transport de masse. Donc ça, je pense que c'est assez important. Des villes secondaires au Nigeria, des villes secondaires en Algérie, en Égypte, en Éthiopie, en Angola, en RDC, qui sont des villes millionnaires ou des villes multimillionnaires en habitants et qui auraient vraiment, vraiment besoin de gros projets de transport de masse et qui ne sont pas servis aujourd'hui.
Merci beaucoup. Donc, ne pas se concentrer seulement sur les capitales, mais aussi aller regarder ces villes millionnaires qui sont en train effectivement de se développer à côté et les offrir effectivement des solutions de mobilité qui sont adaptées. Mais écoute, je pense que ça fait un très bon échange sur ce sujet-là. Mais peut-être avant de clôturer, comment aujourd'hui vous voyez la mobilité urbaine en Afrique à l'horizon 2030? Au niveau des ODD, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme possibilité d'atteinte des objectifs sur le côté de la mobilité?
Alors, 2030, c'est demain, puisqu'on est en 2023, donc 2030, c'est dans 7 ans. Je pense que, comme on en a déjà parlé dans le cadre de cet entretien, il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place. C'est très réjouissant. Ça donne des rôles modèles un peu à suivre en termes de comment elles fonctionnent, la gouvernance, le financement, comment c'est planifié, etc. Donc, comment est-ce que je vois la mobilité urbaine à horizon 2030? Je pense qu'il y a un certain nombre de pays qui vont continuer à avancer très vite. Je pense par exemple au Maroc, à tout ce réaménagement de la vallée du Bouregreg avec ces tramways qui sont mis en place. Je pense donc à toutes ces startups qui se mettent en place, notamment Emoto au Bénin et au Togo, demain au Rwanda, avec des modèles qui sont très innovants, qui sont très intéressants pour ces pays, qui sont des pays dans lesquels il y a beaucoup de motos, il y a beaucoup de mototaxis, donc il y a un impact social très important, un impact environnemental aussi très important quand on remplace des motos qui fonctionnent avec des carburants type essence par des motos électriques. Ça fait faire des économies, ça fait moins de pollution, donc tout ça est très intéressant. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique fourmille de projets intéressants, d'exemples intéressants, et que tout ça va se développer à horizon 2030, 2040, 2050, et il le faut pour que ces villes africaines puissent être vivables et pour que ces villes africaines puissent être mieux planifiées et puissent rendre tous les services qu'on attend d'elles à tous ces habitants, à tous les citoyens qui vont vivre dans ces villes.
Mais plutôt optimiste, mais un optimisme basé sur d'abord des actions concrètes aujourd'hui. Effectivement, il y a des choses qui se font. Et naturellement, si ces choses continuent, on devrait avoir effectivement des années à venir beaucoup meilleures pour la mobilité urbaine dans les villes de l'Afrique. Merci encore à Amaury, c'était un grand plaisir d'échanger sur ça. Je ne sais pas, peut-être avant de finir, est-ce que vous avez un dernier mot pour la clôture?
Écoutez, je vous souhaitais d'abord vous remercier beaucoup de m'avoir consacré du temps autour de cette problématique qui est vraiment clé, puisque aujourd'hui, la majeure partie des Africains vivent dans les campagnes, mais ce sera plus vrai d'ici 10, 15 ou 20 ans. C'est déjà plus vrai dans un certain nombre de régions d'Afrique où les urbains ont surclassé la population des campagnes. Donc c'est vraiment un sujet qui est clé. C'est un sujet sur lequel, je pense, les décideurs publics, privés, ont conscience qu'il faut faire des choses. Et encore une fois, ce qui est réjouissant, c'est qu'on voit beaucoup de projets, mais il faudrait que ces projets soient multipliés par 10 ou par 100 de façon à faire de ces villes africaines qui nous tiennent à cœur des villes qui soient vraiment vivables. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous. Multiplier les projets actuels par 10 ou par 100, voilà un peu, je pense, qui en dit long et qui également définit une tendance qu'il faudrait considérer si on veut arriver à bout. Merci beaucoup à vous, Amaury. Ce fut un grand plaisir.
Merci.
Le développement de l'Afrique passera inévitablement par le développement d'infrastructures qui favorisent une croissance économique durable et inclusive, une économie du bien-être. Ceci fait du développement des infrastructures une affaire pour tous, une affaire de tous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Infrastructure et Développement. Ceci est un cadre d'échange pour vous. Partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous faire part de votre appréciation et de vos suggestions d'amélioration. À très bientôt pour un autre épisode.